Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE l'Argentine vers le monde. Avec la production de Sylvain Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. Les titres. La vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner a dénoncé une persécution à son encontre, et quatre présidents de la région la soutiennent. Le gouvernement a critiqué l'ambassadeur américain pour avoir commenté des affaires intérieures de l'Argentine. L'Argentine renouvelle son appel au dialogue et à la paix entre la Russie et l'Ukraine. À 50 ans du massacre de Trelew, un cas emblématique de violation des droits de l'homme en Argentine. Plébiscite sur la Constitution au Chili. En cas de victoire du rejet, un nouveau texte pourrait être rédigé, selon le gouvernement. Brésil, le président Jair Bolsonaro prévient qu'il pourrait désavouer le résultat des élections. Le nouveau gouvernement colombien retire le pays d'un bloc anti-avortement. La vice-présidente, Cristina Kirchner, a rejeté la demande d'un procureur qui réclame 12 ans de prison dans un procès pour corruption présumée. Dans un message, il a dénoncé le fait qu'elle était victime de persécutions judiciaires, politiques et médiatiques. L'ancienne présidente a également déclaré que les procureurs Diego Luciani et Sergio Mola n'ont pas présenté de preuves sur le détournement de fonds publics pendant son mandat entre 2007 et 2015. En outre, elle a critiqué la partialité dans le procès et a affirmé que la sentence à son encontre a déjà été écrite. L'affaire, a déclaré la vice-présidente, est un procès contre le péronisme pour punir cette force politique pour ses initiatives sociales. Selon Cristina Kirchner, les procureurs sont des amis de l'ancien président Mauricio Macri, aujourd'hui farouche opposant à son gouvernement. Elle a reproché aux procureurs d'avoir ignoré dans leur acte d'accusation les contrats entre certaines des personnes impliquées et des hommes d'affaires liés à Macri. Les procureurs ont demandé l'emprisonnement de Fernández de Kirchner et son inéligibilité à vie de toute fonction publique. Elle est accusée d'avoir favorisé un entrepreneur dans l'attribution de travaux routiers dans la province patagonienne de Santa Cruz. Mercredi, quatre présidents latino-américains ont signé un document commun de soutien à Cristina de Kirchner. Alberto Fernández, Argentine, Andrés Manuel López Obrador, Mexique, Gustavo Petro, Colombie et Luis Arce, Bolivie, qui conclut. Nous condamnons fermement les stratégies de persécution judiciaire visant à éliminer les opposants politiques. Le gouvernement national a reproché à l'ambassadeur américain de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Argentine. Lors d'une réunion du Conseil des Amériques, Mark Stanley, le représentant de la Maison-Blanche à Buenos Aires, avait appelé les politiques argentins à ne pas attendre les élections de 2023 pour reconstruire des coalitions, mais à le faire maintenant. L'ambassadeur réagissait ainsi à un discours du maire de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, un leader de l'opposition, qui avait déclaré que le prochain gouvernement argentin devrait être dirigé par une coalition. Ce à quoi l'Américain a répondu « Oubliez les idéologies et les partis et mettez en place cette coalition maintenant ». La porte-parole de la présidence, Gabriela Cerruti, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'Américain est un ambassadeur comme les autres et a conclu « Ne revenons pas à l'époque où ce que l'ambassadeur des États-Unis disait ou ne disait pas avait tant d'importance pour nous. » 6 mois après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Argentine a renouvelé son appel au dialogue pour trouver une solution diplomatique. Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères a exprimé son ferme rejet de l'utilisation de la force armée et a profondément regretté l'escalade de la guerre. Le lundi 22 août a marqué le 50e anniversaire du massacre de Trelew de 1972, au cours duquel un groupe de prisonniers politiques a été abattu dans une base navale de la province patagonienne de Chubut. Les morts étaient des guérilleros qui, après s'être échappés de prison, avaient échoué dans leur tentative de fuite en avion et avaient été recapturés. Mais au lieu de les ramener en prison, les militaires ont exécuté 16 d'entre eux, seuls 3 ont survécu et ils ont témoigné du massacre. À l'occasion de cet anniversaire, des proches des victimes, d'anciens détenus politiques et des responsables nationaux ont participé à un hommage à l'ancien aéroport de Rawson, la capitale provinciale. Dans ce contexte, le ministère de la Défense, Jorge Tayana, a déclaré « Nous sommes convaincus que la mémoire, la vérité et la justice sont la meilleure façon d'éviter que des événements aussi tragiques ne se reproduisent. Les historiens considèrent Trelew comme un cas emblématique, anticipant des crimes contre l'humanité commis à grande échelle par la junte militaire lorsqu'elle a pris le pouvoir en 1976. Au Chili, un plébiscite est imminent pour décider de l'acceptation ou du rejet d'une nouvelle constitution. Dans ce contexte, le président Gabriel Boric a révélé qu'en cas de victoire du rejet, une deuxième convention pourrait être convoquée pour rédiger un autre texte. Il a rappelé que les Chiliens ont déjà décidé en 2020 de remplacer la constitution sanctionnée par la dictature d'Augusto Pinochet. Cela signifie qu'il ne serait pas nécessaire d'organiser un nouveau référendum, mais simplement d'élire des congressistes pour rédiger un nouveau texte. Dans la perspective du vote du 4 septembre, les sondages montrent un avantage pour le rejet, avec un nombre important d'électeurs indécis. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro a prévenu qu'il pourrait ne pas reconnaître le résultat des élections du 2 octobre, lors desquelles il briguera la réélection. Dans une interview télévisée, il a déclaré qu'il l'accepterait s'il considérait que les élections avaient été propres et transparentes. Bolsonaro avait déjà exprimé sa méfiance à l'égard du système de vote électronique en place au Brésil depuis plus de 20 ans, sans fournir de preuves pour son accusation. Cela a valu à Bolsonaro une autre inculpation de la Cour suprême pour diffusion de fake news. Dans ce contexte, un tribunal local a ordonné la perquisition de 8 hommes d'affaires pour avoir prétendument planifié un coup d'État au cas où le président Jair Bolsonaro perdrait les élections. La Cour suprême a également décidé de bloquer les réseaux sociaux des suspects, qui sont des alliés connus de l'actuel président. Selon les sondages, le favori est l'ancien président Lula da Silva, mais sans atteindre le nombre de voix nécessaires pour éviter un second tour du scrutin qui aurait lieu le 30 octobre. Le nouveau gouvernement colombien a décidé d'abandonner le consensus de Genève, un bloc de 36 pays contre l'avortement. Le ministère colombien des Affaires étrangères indiquait que cela était dû à l'engagement en faveur des droits des femmes de l'administration dirigée par le nouveau président Gustavo Petro. L'accord avait été signé au Brésil en mai dernier, sous la présidence du prédécesseur de Petro, Iván Duque. Selon le gouvernement colombien, le maintien du consensus irait à l'encontre de la Constitution, qui reconnaît l'interruption de grossesse comme partie intégrante des droits sexuels et reproductifs des femmes. Outre la Colombie, les autres pays américains qui ont rejoint le bloc anti-avortement sont le Guatemala, le Brésil, les États-Unis et Haïti. La justice mexicaine a arrêté vendredi 19 Jesús Murillo Caram, l'ancien procureur général du pays, et ordonné l'arrestation de 64 policiers et militaires pour leur implication présumée dans la disparition de 43 étudiants d'Ayotzinapa en 2014. C'est ce qu'informe France 24.
Il s'agit du moins d'une grande avancée car la responsabilité des autorités mexicaines est enfin admise puisqu'on parle aujourd'hui d'un crime d'État. L'arrestation de José Murillo Caram est importante car c'était l'architecte de ce qu'on appelait à l'époque la vérité historique qui était en réalité un tissu de mensonges. À l'époque, le procureur général chargé de l'enquête avait défendu la thèse que les étudiants avaient été assassinés par des membres du groupe criminel Guerreros Unidos et que leur corps avait été brûlé dans une décharge voisine puis jeté dans un fleuve. Différentes enquêtes indépendantes ont prouvé que cette thèse ne tenait pas. Ces enquêtes ont prouvé aussi que de nombreux aveux avaient été obtenus sous la torture. Le dernier rapport fait état de collusion entre Guerreros Unidos et des agents de différentes institutions de l'État mexicain, ce qui prouve la responsabilité de l'armée et de la police dans la disparition des étudiants et dans la falsification de la scène de crime. En plus de l'interpellation de l'ancien procureur, 83 mandats d'arrêt ont été émis contre des policiers locaux, des policiers d'État et aussi des fonctionnaires de justice.
Quentin, que s'est-il passé précisément le 26 septembre 2014 ?
Eh bien là encore, la vérité n'est pas totalement connue. Ce que l'on sait, c'est que les étudiants d'Ayotzinapa se seraient rendus dans la ville voisine d'Iguala pour ensuite se rendre à un rassemblement à Mexico. Les étudiants auraient réquisitionné des bus. Et la police, pour des raisons encore obscures, aurait tiré sur les véhicules. Cette nuit, 3 étudiants ont été tués. Des dizaines auraient été interpellés puis libérés, mais 43 étudiants ne sont jamais rentrés chez eux. 8 ans plus tard, seulement 3 corps ont été retrouvés sur ces disparus.
Que signifient ces conclusions de la justice mexicaine pour les familles des victimes ?
Eh bien, les familles de victimes espéraient depuis longtemps l'arrestation de José Murillo Caram, mais les proches de ces 40 étudiants espèrent surtout retrouver les corps de leurs disparus. Finalement, le cas d'Ayotzinapa est symptomatique d'une corruption systématique au Mexique jusqu'aux plus hautes sphères de l'État et aussi symptomatique de l'impunité totale dans les affaires criminelles. Je vous le rappelle, le Mexique a dépassé récemment le triste record de 100 000 disparus depuis 1964. et en moyenne 95% des enquêtes criminelles sont impunies.
Il y avait la police municipale. Et on sait aujourd'hui que l'armée assurait la coordination de toutes ces forces ce soir-là. On a affaire à un crime d'État.
Ces images, nous sommes allés les tourner dans l'État du Guerrero au Mexique, où nous avons rencontré notre observateur José, un étudiant de l'école normale d'Ayotzinapa. Car dans son école s'est produit un drame terrible. 43 de ses collègues, des jeunes d'une vingtaine d'années, ont été kidnappés et on ne les a jamais retrouvés. Pourtant, on sait exactement qui a commis ce crime, des narcotrafiquants, mais aussi des policiers avec qui ils travaillaient ce jour-là, main dans la main.
Ce sont nos camarades du 26. Ces trois premiers-là, ils sont morts le 26.
Tu connaissais Julio César Mondragón ?
Oui, je le connaissais. Ce jour-là, le 26 septembre, quand il y a eu l'attaque, on était tous ensemble. Et lui s'est retrouvé à courir de l'autre côté, et il s'est retrouvé tout seul. Et c'est là qu'ils l'ont rattrapé. Ils lui ont arraché les yeux et même la peau du visage.
Pourquoi tu as voulu étudier dans cette école ?
Parce que c'est une école faite pour les enfants de paysans. Car nos parents n'ont pas les moyens de nous envoyer dans une école privée.
Partout dans l'école, il y a les portraits de Lénine, de Marx, de Che Guevara. Pourquoi tu aimes Che Guevara, par exemple ?
C'est un personnage qui a marqué l'histoire. Quelqu'un qui n'a jamais abandonné la lutte. Il avait un idéal, le même idéal que nous avons dans cette école.
L'école d'Ayotzinapa forme les futurs instituteurs de la région. Mais ce n'est pas une école comme les autres, et on comprend vite pourquoi elle dérange les autorités. C'est quoi l'activité là ?
On fait du sport. Mais ensuite, quand on sera arrivé au bout de ce petit ruisseau, on va s'asseoir et on va faire une lecture qui s'appelle Analyse de la réalité sociale. Je sais qu'ils peuvent nous frapper, nous réprimer, nous faire disparaître, nous tuer. Mais ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça me donne du courage, de la rage.
Ils en sont convaincus, ils sont porteurs d'un nouveau projet politique pour l'ensemble du Mexique.
Ce que j'ai dit à mes camarades, c'est que tout peut partir d'ici, de notre famille, de notre école.
À les écouter parler de Marx et de leur confrontation avec la police, on en oublierait presque leur âge. Comme eux, les 43 disparus avaient à peine 20 ans.
Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos. Ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos. Patagonia. Patagonia, Patagonia.
Benoît Andrieux est un jeune Français, originaire de Normandie, installé au fin fond de la Patagonie, dans un village appelé Cholil, où il tient l'école Centre éducatif agrotechnique de la Fondation Cruzada Patagónica pour les enfants des parages, souvent très éloignés de l'établissement. Tout est difficile dans le Grand Sud, le froid, les distances, la pauvreté. L'école dépend en grande partie du soutien de bénévoles, beaucoup plus en ces temps difficiles de crise économique et sociale en Argentine.
Bonjour, je m'appelle Benoît Andrieux, j'ai 41 ans, je suis français, donc de Normandie, de Seine-Maritime. Je suis ingénieur agricole, j'ai fait mes études à Beauvais en France. Et juste après mes études, à la fin de mes études, je suis venu ici en Argentine pour faire une coopération avec la délégation catholique pour la coopération au sein de la Fundación Cruzada Patagónica, qui est une ONG argentine qui travaille en éducation et développement rural pour les populations rurales de l'ouest de la Patagonie. Je suis donc arrivé en 2004 à Junín de los Andes, au sein d'un collège-lycée agricole que la Fondation possède depuis plus de 40 ans, pour y faire différentes activités au sein de cette coopération, donc du travail en partie sur le collège, pour remettre en place le troupeau de brebis laitières et puis la fabrication de fromage. Et puis j'ai commencé aussi à travailler beaucoup auprès des populations et des communautés Mapuche de la région de Junín de los Andes et auprès de communautés rurales de la province de Rio Negro dans la steppe de Patagonie sur différents projets d'accompagnement des familles au niveau agricole, donc avec l'installation de serres, des projets de captation d'eau, etc. Durant ces 2 années de coopération, j'ai rencontré mon épouse qui est arrivée à travailler sur la fondation comme prof à l'école de Junín de los Andes. Et donc mes 2 ans de coopération se sont transformés maintenant en 18 ans sur place en Argentine. En 2008, la fondation décide d'ouvrir une deuxième école, un deuxième collège-lycée agricole, 500 km plus au sud, dans un petit village de la province de Chubut qui s'appelle Cholila, qui se trouve entre El Bolson et Esquel. Et donc avec Evelyne, mon épouse, on décide alors de partir nous installer à Cholila pour ouvrir l'école. Et nous avons été les deux seuls quasiment à passer de la première école à la seconde. Et nous sommes donc au sein de l'école de Cholila depuis le premier jour, depuis 2008. À construire une école depuis zéro, parce que quand nous sommes arrivés à Cholila, il y avait juste un bâtiment pour y avoir quelques salles de classe et puis la cantine. Et nous avons travaillé depuis le début à mettre en place toute la ferme de l'école pour pouvoir enseigner toutes les productions possibles à nos élèves. Voilà, depuis 2008, je suis chargé de l'enseignement technique sur cette école. Je m'occupe donc autant de la production en soi, de mettre en place donc tous les secteurs de production, toutes les productions possibles, et ensuite de gérer ces productions au jour le jour. Mais je suis aussi en charge de la partie enseignement des matières techniques, des matières de production, tout ça. Donc, dans un travail avec les profs qui est pédagogique, surtout sur la partie de l'enseignement, de la pédagogie de l'enseignement en technique. Donc, travailler avec les profs de ces matières-là, qui en général sont plutôt des professionnels, des ingénieurs, des vétérinaires, des techniciens agricoles, leur expliquer à enseigner, comment enseigner ces matières techniques. Voilà, donc mon travail tourne beaucoup autour de ça. Donc, sur l'école, nous avons actuellement 170 élèves qui sont pour un tiers pensionnaires. Les pensionnaires sont des jeunes qui viennent de la steppe de Patagonie, qui viennent d'une distance entre 100 et 300 km de l'école, et donc ils restent sur l'école. Et le reste des élèves viennent des vallées auprès de l'école, donc ils vont et viennent depuis chez eux tous les jours. Ces 170 élèves sont répartis en 7 années d'études, comme c'est le cas dans la province de Chubut, pour les écoles d'enseignement technique. Et puis, ils terminent leurs études avec un diplôme de technicien en production agricole. Donc un diplôme professionnel qui leur permet d'exercer la profession de technicien en production agricole. L'objectif dans l'école, pour nous, c'est pas seulement une fonction d'enseignement, sinon que la fonction sociale de l'école et de la fondation est très marquée. On reçoit des élèves qui viennent dans une majorité de populations en difficulté, de populations appauvries ou pauvres de ces régions de la Patagonie rurale. Parmi la plupart des élèves qui viennent de la steppe, en général, c'est des familles qui vivent dans des maisons en torchis, sans électricité, sans eau courante pour la plupart, sans toilettes. C'est des populations vraiment en grande difficulté. Et notre travail est de leur donner une possibilité d'enseignement qui leur permette éventuellement après de poursuivre des études s'ils le souhaitent, mais aussi de les accompagner avec des projets de développement local dans la mesure du possible. Donc où on essaye avec nos élèves de mettre en avant des projets de développement local. On a notamment ici sur l'école un projet avec les élèves de dernière année qui construisent des éoliennes pour aller les installer chez des familles de camarades de classe qui vivent dans la steppe, qui n'ont pas d'électricité chez eux. Et donc en allant leur installer une éolienne, on leur donne la possibilité d'accéder à une source d'électricité, ce qui leur change beaucoup la vie pour pouvoir éventuellement même pouvoir avoir un réfrigérateur ou voilà, ce dont on a besoin. Aujourd'hui, on a besoin d'électricité pour tout. Ben, ils ont une petite possibilité d'y accéder avec ces éoliennes que les élèves construisent eux-mêmes entièrement.
Que destino puede darte quien no asume tu destino. Quien tiene rota la parte de pensar en argentino, Patagonia.
Notre école est une école privée de gestion sociale, comme elle est catégorisée par la province ici. Cela signifie que c'est une école qui a un objectif social clair et défini et obligatoire. On ne fait pas payer de scolarité à nos élèves. L'enseignement est entièrement gratuit pour eux, comme dans les écoles publiques. Mais on dépend d'une organisation sociale, donc la Fondation Cruzada Patagónica. Et donc, la province prend en charge les salaires de tout le personnel et quelques aides pour la cantine, quelques petits trucs à côté. Mais tout le reste, on dépend des fonds que l'on rassemble avec la fondation. Et on dépend en fait des dons de tout type, d'entreprises, de coopération internationale, de particuliers, qui nous permettent de soutenir notre activité au jour le jour. De cette façon, nous avons construit tous les bâtiments que nous avons à l'école, nous avons équipé tout ce que nous avons pu avoir à l'école et on est en permanence en recherche de fonds, de donateurs, d'entreprises qui peuvent nous accompagner afin de pouvoir continuer à faire progresser, évoluer notre école dans l'objectif d'améliorer l'enseignement, d'améliorer les conditions dans lesquelles on reçoit nos élèves. Nous sommes actuellement à la recherche de fonds pour pouvoir acheter un nouveau tracteur pour l'école, neuf ou d'occasion, un tracteur qui soit en bon état et suffisamment bien équipé. Actuellement, nous avons un tracteur qui date de l'année 1983, qui est un tracteur historique pour nous parce que c'est un tracteur qui a été d'abord au collège de Junín de los Andes, quand ils ont ouvert le collège là-bas. Puis ensuite, quand ils ont pu obtenir, eux, un nouveau tracteur, ils nous l'envoyaient à Cholila. Il y a des milliers d'élèves qui ont appris à conduire avec lui. Mais voilà, c'est un tracteur qui n'est plus aujourd'hui en condition de faire les travaux qu'on a besoin sur la ferme de l'école et qui n'est plus non plus en condition de nous permettre d'enseigner l'utilisation du tracteur et des outils agricoles comme il nous faudrait le faire. Donc voilà, on est depuis quelques années déjà, à la recherche des fonds pour pouvoir changer le tracteur ou à la recherche de quelqu'un, d'un producteur agricole qui aurait éventuellement un tracteur d'occasion, en bonne condition et pas trop vieux, qui nous servirait et qui serait disposé à en faire le don. Cholila, c'est un petit village situé dans la cordillère des Andes, donc entre El Bolson et Bariloche, à peu près. Il est juste à l'entrée nord du parc national Los Alerces, qui est justement caractéristique pour ses arbres, ses alercés millénaires. Un petit village rural de 3000 habitants répartis sur trois vallées importante, qui se caractérise par sa production bovine réputée dans la région du fait de pâtures naturelles assez importantes, ce qui n'est pas très souvent le cas dans la région puisqu'on passe directement de la zone de montagne boisée en général à la zone de steppe sèche. Donc ces vallées où il y a des bons pâturages sont assez limitées dans la région. Et Cholila, on a trois vallées comme ça, et donc est assez réputée pour la viande bovine. Et puis Cholila, c'est un petit bout d'histoire de l'Argentine, et même un peu plus que de l'Argentine, parce que à Cholila est venu se réfugier le bandit américain Butch Cassidy avec son comparse Sundance Kid. Et ils sont venus se réfugier dans cette région-là quand ils fuyaient l'agence Pinkerton aux États-Unis qui les recherchait pour des attaques de train qu'ils avaient fait aux États-Unis. Et donc ils sont arrivés s'installer ici, dans cette région qui, à l'époque, était une région qui n'était pas complètement sous contrôle argentin, puisque c'était une région qui était en dispute entre l'Argentine et le Chili. Et donc il n'y avait pas un contrôle plein de l'Argentine. Et ça leur convenait très bien pour ne pas être découverts trop vite. Ils y ont passé quelques années jusqu'à ce que des détectives de l'agence Pinkerton arrivent dans la région et se sont échappés de nouveau en direction de la Bolivie, je crois, là où ça a été la fin de leur périple. Il y a toujours à Cholila, donc pas très loin de l'école où je travaille d'ailleurs, à 2 km de l'école, il y a toujours la cabane qu'ils avaient construite pour s'y installer, avec une méthode de construction qui n'est pas habituelle dans la région, qui provenait plutôt des méthodes de construction aux États-Unis ou au Canada. Et donc c'est un lieu typique où les touristes s'arrêtent pour aller visiter la cabane de Butch Cassidy.
Ainsi se termine ce programme en français de Rai, l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.